Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 20h. C'est peut-être en ce moment que se joue notre retour à une vie plus normale avec des restaurants, des cafés, au moins les terrasses, avec des magasins ouverts, avec des musées, des cinémas. Oui, mais quand et comment? Mi-mai, mi-juin, sous quelles conditions? Emmanuel Macron accueille en ce moment les ministres concernés pour établir, si ce n'est un calendrier sûr et certain, au moins un protocole de sortie de crise. Avant les ministres, le président a dialogué avec plusieurs maires, parmi eux celui de Charleville-Mézières, Boris Ravignon. Il sera l'invité d'RTL Soir dans 20 minutes et il nous donnera peut-être l'état d'esprit du président ce soir. Ce sera donc à 18h20. En attendant, tout de suite, les infos avec Amandine Bégaud. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et on découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité.
Et les enseignants et les policiers, ça y est, vont pouvoir se faire vacciner dès ce week-end. Ils auront droit à des créneaux prioritaires. Une condition tout de même, avoir plus de 55 ans. Dans ce journal également, l'inquiétude qui grandit en Guyane. Le variant brésilien y est désormais largement majoritaire, plus de 80% des cas de Covid. Et puis on vous emmènera en Grèce, le pays pressé de retrouver ses touristes. Il a décidé, comme l'an dernier, de rouvrir ses frontières avant les autres.
Voilà, et puis notez à 18h35 un témoignage édifiant et exceptionnel. Un Français abandonné par la France. Michel Thierry est en Ghana. Il a passé 17 ans dans un réduit qui ne peut même pas être qualifié de cellule, au sous-sol du ministère de la Défense camerounais. Arrestation et procès politiques, 5000 jours en enfer, Paris aux abonnés absents pendant 12 ans et finalement, il y a quelques années, une grâce, une libération, mais pas une réhabilitation qu'il réclame aujourd'hui. Il sera donc avec nous dans une demi-heure environ. La météo, Peggy Broche, demain, le retour des nuages.
Oui, alors ce sera dans l'après-midi. En attendant, on profitera quand même d'une belle matinée bien ensoleillée, sauf sur l'extrême nord-est où les nuages seront déjà bien présents, entre les Alpes et la Corse également avec quelques averses. Et en journée, le soleil résistera uniquement sur les côtes de la Manche et la façade ouest. Sur le nord, un ciel chargé mais sec. Dans le sud, chargé avec des averses et de la neige sur les reliefs à basse altitude. Le tout sous de fréquentes gelées encore et des maximales qui ne vont pas grimper par rapport à aujourd'hui de 10 à 14 au nord et jusqu'à 17 au sud.
La fin des gelées, c'est pour quand?
Ce sera pour début de semaine prochaine. Il y en aura encore un tout petit peu samedi.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et pour commencer, nous tenions ce soir à avoir une pensée pour toutes ces victimes du Covid. La France s'apprête à passer la barre des 100 000 morts. Un chiffre glaçant, mais derrière, il y a bien sûr des hommes et des femmes, 100 000 vies fauchées, 100 000 familles endeuillées. Parmi elles, celle de Bernard et de Daniel, un couple d'Alsaciens emporté en quelques jours par le virus, Yannick Collin.
Leur bureau n'a pas changé depuis un an. Le courrier est toujours posé sur la table de Daniel, 76 ans, en face de l'ordinateur de Bernard, 85 ans. Dans ce petit bureau d'études d'ingénierie qu'ils avaient fondé en 1977, Patrick, leur fils, travaillait avec eux.
Tous les matins, ils venaient, fallait qu'ils viennent. Jusqu'au bout, ils s'occupaient encore de quelques dossiers.
Et eux, ils ont travaillé ensemble toute leur vie, ouais.
Posé à côté du bureau, le vélo de course blanc et rouge de Bernard, transformé en vélo d'appartement, une heure tous les soirs.
Il mettait son ordinateur portable et puis il avait des vidéos. Il passait des étapes du Tour de France pendant qu'il pédalait. Ah ouais, il cherchait toujours la performance quand même aussi, toujours. Le 10, je l'ai encore vu sur le vélo. Et puis le 11, en fait, ça allait pas bien. Il m'a dit, oh là, ça va pas. Et puis en fait, le 12, il a fait un malaise.
Bernard est hospitalisé une semaine plus tard. Sa famille ne peut plus venir le voir à cause du Covid. Puis Danielle, elle aussi, commence à avoir de la fièvre. Malgré la réticence de ses proches, elle est hospitalisée à son tour.
Mais je pense que ma maman n'aurait pas dû y aller. Le sentiment que j'ai eu l'année dernière, quand elle m'a dit il m'envoie à l'hôpital, j'avais presque l'impression qu'elle voulait aller le voir à l'hôpital.
Elle ne voulait pas le laisser partir seul?
Non, mais au moins pouvoir le voir. Et voilà comment ça s'est fini, quoi.
Personne ne sait si Daniel et Bernard ont pu se croiser une dernière fois dans les couloirs de l'hôpital de Mulhouse. Ils sont décédés à 4 jours d'intervalle, unis à la vie, à la mort.
4 jours d'intervalle seulement pour ce couple. Reportage très touchant, signé Yannick Holland. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Parmi ces 100 000 victimes, les deux tiers sont mortes, les deuxièmes et troisième vague.
Oui, 65 000 décès ont été constatés depuis fin octobre. Alors, on peut avoir l'impression que la première vague, celle du printemps dernier, a été plus meurtrière. C'est la deuxième qui l'a été, 5 mois de plateau. C'est-à-dire que le nombre de cas positifs n'est jamais redescendu en dessous de 12 000 par jour. Et il y a eu, depuis fin octobre, 380 décès chaque jour du Covid en France.
La France, qui est le troisième pays européen à dépasser ce terrible bilan, après la Grande-Bretagne et l'Italie.
Oui, qui déplorent, eux, 127 000 et 115 000 décès, mais il faut comparer plutôt par rapport à la population totale. Donc parmi les pays les plus touchés au monde, la France est 23e. Dans beaucoup de pays, le calcul des décès est peut-être un peu moins précis qu'en France, mais si on compare à nos voisins qui ont à peu près autant que nous de personnes âgées et des systèmes sanitaires qui ressemblent aux nôtres, eh bien la France a moins de victimes pour 100 000 habitants que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni, entre 10 et 15% de moins, mais plus que les pays du nord de l'Europe et que l'Allemagne surtout. Les Allemands ont connu un tiers de décès en moins.
Merci beaucoup Virginie Garin. Alors évidemment, une grosse pensée à ces 100 000 familles endeuillées, mais aussi une grosse pensée pour le personnel hospitalier. Et justement, RTL a décidé de le mettre à l'honneur demain matin avec une matinale spéciale. 5 heures d'antenne en direct de l'hôpital Antoine Béclair à Paris avec des directs de nos journalistes, mais aussi de nombreux reportages dans cet hôpital, mais aussi des reportages en région, auprès de familles de victimes, au cœur d'un EHPAD et au sein d'un grand hôpital près de Bordeaux. Donc une matinale spéciale, soyez vraiment au rendez-vous demain matin, dès 5h et jusqu'à 9h du matin, avec toute l'équipe d'RTL auprès des personnels hospitaliers.
Et pour le moment, vous le savez, pas d'hommage officiel, le temps viendra, a dit hier le porte-parole du gouvernement ce soir. C'est visiblement dans l'action que veut se montrer l'exécutif, en déplacement aujourd'hui dans un centre de vaccination. Jean Castex annonce des créneaux dédié pour toute une série de professionnels, 400 000 personnes de plus de 55 ans.
Les professeurs des écoles, des collèges et des lycées, les AESH, les ATSEM, les professionnels de la petite enfance, les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes, les surveillants de l'administration pénitentiaire, ils pourront donc recevoir une première dose de vaccination. Et ça va donc commencer, je le répète, dès ce week-end, 17 et 18 avril, et sous réserve d'avoir plus de 55 ans. Cette mobilisation de créneaux, je vous l'annonce, durera un minima de semaines, y compris les week-ends.
Jean Castex, le Premier ministre, qui participe bien sûr ce soir à la réunion autour d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a convoqué une partie du gouvernement pour évoquer l'après, les réouvertures. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Une chose est sûre, rien ne sera tranché ce soir.
Et oui, d'abord parce que le président veut annoncer lui-même les bonnes nouvelles, et puis parce qu'Emmanuel Macron, comme d'habitude, veut consulter tout le monde avant de dévoiler son jeu d'ici la fin du mois. Le chef de l'État a donc sondé les premiers concernés cet après-midi, les maires, une quinzaine d'élus qui ont fait remonter les demandes locales des professionnels du monde du spectacle, du sport, mais aussi des restaurateurs. Et ce soir, vous l'avez dit, c'est au tour des ministres de dévoiler leurs propositions. Quelle jauge pour les terrasses des restaurants ou pour les musées, par exemple? Quelle modalité d'ouverture pour les salles de sport? Faut-il un pass sanitaire, un système de QR code? Une des pistes discutées ce soir, c'est de faire un calendrier différencié par région pour laisser une marge de manœuvre aux élus sous le contrôle du préfet, quitte à ce que les dates de réouverture ne soient pas les mêmes pour tous. Quoi qu'il en soit, l'équation est compliquée car la troisième vague, vous l'avez entendu, n'est pas derrière nous. Et puis la pression des différents secteurs est très forte, l'impatience des Français aussi. Et Emmanuel Macron veut prendre son temps pour éviter les critiques, la déception, s'il présente un plan de sortie de crise mal ficelé.
Vincent Derosier du service politique d'RTL.
Et avant cette réunion avec les ministres, eh bien le président a dialogué avec plusieurs maires de France, notamment celui de Charleville-Mézières, qui sera dans quelques minutes, Boris Ravignon, en direct avec nous sur RTL.
Parmi les zones qui préoccupent ce soir le plus le gouvernement, il y a la Guyane. Le variant brésilien y est désormais très très largement majoritaire. C'est 84% des cas, Valentin Boissé.
Oui, la Guyane est au pied d'une troisième vague. Ce sont les mots de la directrice de l'ARS Clara Debord. Le plan blanc est déclenché depuis hier à l'hôpital de Cayenne, car d'ici 2 ou 3 semaines, les projections sont mauvaises. Les hôpitaux commencent d'ailleurs déjà à se remplir. Si la Guyane a bien suspendu ses liaisons avec le Brésil il y a quelques jours, elles ne le sont pas avec la métropole. Et selon nos informations, depuis hier, des tests antigéniques sont effectués systématiquement à l'arrivée à l'aéroport d'Orly. Et le préfet de Guyane, Thierry Kefelec, aimerait aller plus loin en testant avant même l'embarquement chaque voyageur à Cayenne dès la semaine prochaine.
Le variant brésilien est très rapide, donc on met encore un verrou, ce qu'on appelle les autotests. Pour la semaine prochaine, ils vont être obligatoires à l'embarquement depuis Cayenne. Autotest, test PCR, notif impérieux, évidemment habillé, et la personne pourra se déplacer.
Et selon nos informations, une réunion aura lieu dans les prochaines heures à la préfecture pour prendre de nouvelles mesures, avec comme proposition un renforcement du couvre-feu dès ce dimanche.
Valentin Boissé, l'inquiétude aussi en Inde. Le pays a enregistré aujourd'hui un nouveau record de contamination, plus de 200 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est désormais le deuxième pays le plus touché dans le monde après le Brésil.
Allez, on marque une courte pause et puis dans un instant, on vous parle de ces policiers menacés à Épinay-sur-Seine puisque leurs photos ont carrément été placardées dans des halls d'immeubles. A tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Et le journal d'Amandine Bégaud qui continue avec le parquet de Bobigny qui ouvre ce soir une enquête après la découverte de photos de policiers placardées sur les murs d'un hall d'immeuble.
Ça s'est passé à Épinay-sur-Seine, en banlieue parisienne. Des clichés personnels, des photos de mariage notamment. Juste en dessous, les noms et prénoms des fonctionnaires concernés. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Ça ressemble clairement à une menace, à une mise en garde.
Absolument. Les policiers visés interviennent régulièrement dans le bâtiment où étaient placardées ces photos. Cet immeuble qui est en fait un point de deal. Deux photos différentes imprimées à une vingtaine d'exemplaires étaient affichées sur les murs et les vitres au pied de la tour. Sur l'une, un des policiers est en tenue de mariage avec son épouse, clairement identifiable. Sur l'autre, c'est un portrait type photo d'identité du deuxième policier. Tout cela sans menace clairement énoncée, mais accompagné de leur nom et prénom. Pour Rocco Contento, délégué unité SGP Paris, l'acte d'intimidation ne fait aucun doute.
Ce sont des policiers qui interviennent quotidiennement sur ce point de deal. Donc c'est un signal, un très mauvais signal envoyé par ces voyous, ces bandits, en disant, voyez, on vous connaît, on vous identifie, on connaît aussi vos épouses. On est déjà menacé par le métier qu'on pratique, mais là encore plus, puisque ces photos sont à la vue de tout le monde. C'est ça qui est rageant pour ces collègues-là.
Ces photos découvertes par des collègues, des policiers menacés ce matin, ont été immédiatement décrochées. Elles vont être analysées pour tenter de retrouver les empreintes des auteurs potentiels. Cette menace s'inscrit dans un contexte de tension dans le quartier depuis quelques jours, avant dans la soirée, des policiers ont été caillassés à cet endroit précisément.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL. À l'étranger, les États-Unis annoncent une série de sanctions financières contre la Russie. Réponse à la série de cyberattaques qui avait eu lieu pendant la présidentielle américaine. Attaque attribuée à Moscou. La Russie qui, par ailleurs, depuis plusieurs jours multiplie les signes de défiance à l'égard de l'Ukraine. Le sujet sera évoqué demain lors d'une visioconférence entre Emmanuel Macron, Angela Merkel et le président ukrainien.
Emmanuel Macron qui s'est rendu aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame.
Oui, visite 2 ans jour pour jour après le terrible incendie qui avait ravagé la cathédrale. Sinemir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce déplacement. Le chef de l'État a pris le temps d'échanger avec chaque corps de métier.
Et tout cela au sommet de l'immense échafaudage construit sous ce trou encore béant. On voit le ciel bleu, les deux tours à travers la nef lorsqu'Emmanuel Macron arrive sur le chantier.
Comment que vous faites ? Depuis le début.
1000 tonnes de tubes d'acier sont désormais en plein cœur de Notre-Dame.
Toute cette partie-là, vous allez devoir le faire.
Cette partie-là, on est obligé de le faire.
Parce que les propriétés maintenant de la pierre, de la
mécanique, voilà.
C'est la société Europe Échafaudage, celle qui avait été mise en cause au moment de l'incendie, qui vient d'achever ce squelette d'acier pour lancer la phase de reconstruction.
Ce qui devait être le chantier d'une vie, et ce qui a tourné un peu au cauchemar pour notre entreprise.
Son PDG, Julien Lebras, n'a pas caché son émotion au moment de s'entretenir avec Emmanuel Macron ce matin.
Malgré l'impact médiatique et les contre-vérités qui ont été annoncées ça et là, l'État, le général, l'architecte ont conservé la confiance qu'ils avaient en l'entreprise. Et heureusement, sinon je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, mon entreprise ne serait peut-être plus là aujourd'hui. Tellement ça a été douloureux. Mais là aujourd'hui, on est là pour quelque chose nettement plus positif, c'est la résurrection de la cathédrale, si je puis dire. Et j'espère que ça sera, tel que le veut la tradition, le plus jeune couvreur de la société qui posera le coq.
Mais vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui l'attendent.
Objectif fin 2024 pour le coq au sommet de la flèche. Le président comme le général Georges Lain l'ont encore rappelé ce matin.
Sinemir au cœur du chantier de Notre-Dame pour RTL.
Peut-être une bonne nouvelle. Et du jour.
Oui.
Bah oui, quand même, on apprécie.
RTL Soir. La bonne nouvelle du jour.
Et on va bientôt pouvoir aller visiter Athènes ou se faire bronzer sur les îles grecques sans contrainte. Ça donne envie,
vous
ça.
Vous avez une petite idée derrière la tête.
Le pays a décidé de lever la septaine qui était imposée jusqu'ici dès la semaine prochaine. Ouais. 200 Néerlandais sont actuellement sur l'île de Rhodes, confinés dans un hôtel pour tester le tourisme de masse. À Athènes, Alexia Kefalas, les Français, eux, sont accueillis à bras ouverts.
Oui, dans la capitale grecque, il n'est pas rare d'entendre de plus en plus de Français, et notamment sur le rocher de l'Acropole. Juliette est venue en famille passer ses vacances.
Regardez comme c'est beau ce Parthénon. On est seul, quasi, il y a les enfants qui courent, on regarde les détails, pas de foule pour se presser, une merveille. Voilà, c'est ça la Grèce aujourd'hui.
Le gouvernement grec fait tout pour attirer les touristes dès lundi. La septaine obligatoire imposée à tous les arrivants sera levée pour les Européens et 5 autres pays. Au même moment, 8 aéroports régionaux dont Mykonos et la Crète rouvrent leurs pistes. Enfin, la saison touristique sera officiellement lancée le 14 mai prochain. Seul un test PCR négatif de moins de 72 heures sera demandé à tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Le but est unique, sauver la saison. Le tourisme en Grèce, c'est le deuxième pilier de l'économie. Il est donc vital, or il a chuté de 80% l'an dernier. Le pays ne veut donc plus perdre une seule semaine.
Alexia Kefalas, la correspondante d'RTL en Grèce. Ça donne envie.
On n'y est pas encore, mais au moins on peut rêver.
Voilà,
c'est déjà ça. Merci pour cette bonne nouvelle. Vous revenez à 18h30, évidemment. À tout à l'heure, Amandine. Il sort tout juste d'une visioconférence avec le président sur la situation sanitaire en France. Le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, sera avec nous dans un instant. Il est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, donc, le maire LR de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Je le disais tout à l'heure dans la présentation, vous avez participé avec plusieurs autres maires cet après-midi à une réunion à distance avec Emmanuel Macron avant qu'il rencontre les ministres, c'est en ce moment même. Tout d'abord, est-ce qu'à l'issue de cette réunion, vous avez aujourd'hui une idée de ce qui se profile ?
Oui, le président nous a confié dans un échange avec lui ce qu'il prévoyait de faire, les engagements qu'il prenait, qu'il confirmait sur la vaccination par exemple, mais aussi effectivement il a esquissé la méthode qu'il compte proposer, je crois, prochainement sur la réouverture progressive des activités vers la mi-mai. Il a beaucoup insisté sur cette expression vers la mi-mai.
Oui, vers la mi-mai, il n'a pas dit le 15 mai.
Non, il n'a pas dit le 15 mai. Il a même souligné qu'il fallait être pragmatique et que la question de la santé de nos concitoyens était prioritaire. Mais vers la mi-mai, il y a plusieurs phases de réouverture qui se dessinent, avec notamment une première phase qui concernerait les musées, par exemple, un certain nombre de lieux de culture, semble-t-il, et puis les terrasses.
Les terrasses des restaurants et des bars qui pourraient rouvrir. Et il a dit que la culture, que ce soit les musées, peut-être les théâtres ou les cinémas, je ne sais pas, il a précisé les choses.
Il a proposé en fait une approche par phase avec donc une première phase dans laquelle il a expressément parlé des musées et des terrasses. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines d'observation, en étant très attentif sur les résultats sanitaires, et bien de pouvoir passer à d'autres phases. Des phases supplémentaires, il en a listé jusqu'à 4, la quatrième étant la réouverture complète sans restriction. Donc on a compris que le détail dépendrait aussi des discussions qui allaient s'établir là, forcément avec les scientifiques,
oui,
et avec les ministres, et avec les élus. Il nous a aussi annoncé une phase de concertation de plusieurs semaines avec l'ensemble des élus locaux dans le cadre de la relation maire-préfet.
Que vous a-t-il dit de la situation sanitaire ? Est-ce qu'il est optimiste ? Est-ce que s'il fixe finalement, non pas forcément un calendrier, mais un plan pour sortir de cette situation, est-ce que ça veut dire que, à son sens, l'épidémie est derrière nous ?
Non, il avait vraiment le sentiment qu'on n'était encore pas arrivé au pic de cette phase actuelle, qu'on allait continuer à avoir une saturation encore un peu plus importante, et notamment des hôpitaux, mais que vers entre le 25 et le 30 avril, on allait pouvoir dépasser ce pic en fonction aussi du respect des règles du confinement actuel, et que c'est ensuite seulement qu'on pourrait imaginer la réouverture. Donc là, jusqu'à la fin du mois d'avril, on est malheureusement dans une période difficile, c'est ce qu'il nous a confié, et il a beaucoup développé également, pas simplement la perspective, mais aussi le travail, puisqu'on l'a naturellement beaucoup interrogé sur une impatience très grande de nos concitoyens à l'égard de la vaccination. Mmh. Et donc, il a rappelé des engagements importants.
Il est satisfait du rythme de la vaccination, président ?
Je crois qu'il a les efforts qu'il nous exprime sur la mobilisation montrent que non, il souhaiterait que les choses aillent effectivement plus vite. Il a souhaité qu'on ait davantage de visibilité, par exemple, sur les centres de vaccination. Et ça, c'est effectivement important. 5 à 6 semaines de visibilité. Il a insisté sur ce point et il a confirmé l'engagement que chaque adulte, chaque Français adulte se verrait proposer une vaccination d'ici la fin de l'été. C'est-à-dire d'ici la fin du mois de septembre. Et ça, ce sont des engagements importants dont on a besoin pour rassurer une partie de nos concitoyens inquiets.
Cette inquiétude que vous évoquez, vous la constatez, vous, par exemple, à Charleville-Mézières, comment se passe sur le terrain la vaccination ?
Alors, elle se passe pour le mieux possible. On a aménagé 5 centres sur l'agglomération et puis on a 26 au total dans le département qui fonctionnent très bien, mais qui aujourd'hui sont contingentés par une seule ressource. Ce sont les vaccins qui n'arrivent pas.
Et ça, vous lui avez dit au président que les vaccins n'arrivent pas ?
Ouais. Bien sûr. On en a parlé. On est revenu sur la stratégie européenne. Je suis intervenu également aussi pour lui dire que moi, je pensais qu'il fallait qu'il y ait une répartition plus fine des vaccins en fonction de l'incidence, de la situation épidémique, qu'il est beaucoup plus logique d'acheminer les vaccins vers les territoires qui sont aujourd'hui les plus touchés. C'est pas exactement ce qui se passe. Alors, on a eu un échange très long, très riche sur ce sujet.
Vous l'avez senti comment le président ce soir ? Si je vous pose cette question, c'est parce qu'on a eu parallèlement dans la journée, par exemple, l'infectiologue, le professeur Pialou, qui a estimé que le climat de réouverture, le fait de parler de réouverture aujourd'hui, était complètement déconnecté de la réalité sur le terrain. Il parle d'une illusion collective portée par la communication du gouvernement. Il vous a paru optimiste, peut-être trop optimiste ou pas
Non, il n'était pas sur un registre d'optimisme ou de pessimisme. Il essayait de décrire quelle était la situation sans je crois dissimuler qu'on n'était pas sorti de la phase difficile. Mais je pense qu'on était plusieurs élus et je faisais partie à comprendre le besoin qu'il a comme président de la République d'afficher aussi une perspective de donner, aussi une perspective d'expliquer à nos concitoyens pourquoi aujourd'hui nous subissons de nouvelles restrictions et jusqu'à quand et quelle est la perspective d'en sortir. Je crois que on est là sur la gestion aussi du moral de nos concitoyens il me semble que c'est tout aussi important que les mentalités soient tournées finalement vers l'effort actuel et puis une perspective d'amélioration ensuite que de simplement être sur la lecture des indicateurs médicaux qui sont, c'est vrai, pour le moment inquiétants, alarmants.
Il vous a parlé de son inquiétude face à l'apparition du variant brésilien ?
Non, ce sujet n'a effectivement pas été évoqué. On est revenu sur la gestion par rapport aux variants britanniques, sud-africains, mais on a effectivement pas évoqué l'ensemble des questions et notamment pas celle-ci.
En toute façon, on devrait en savoir un petit peu plus ce soir à l'issue de cette réunion avec les ministres. Sur un tout autre terrain, le président vous a aussi sollicité sur les élections à venir, les régions. Il vous a confirmé les reports 20-27 juin.
Allô ?
Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez entendu ma question ? Est-ce que vous avez parlé des élections et du report au 20 et 27 juin ?
Oui, je l'ai entendu sur le... Non, puisque ce sujet a vraiment, je crois, été considéré par toutes les personnes autour de la table virtuelle de discussion comme étant tranché. Il y a eu une consultation et puis des annonces qui ont été faites. Et donc, ça a été très, très peu évoqué. On est, je crois, quelques-uns à avoir effectivement regretté. Ça ne va pas être simple d'organiser une campagne, mais la plupart des maires qui étaient présents là s'organisent désormais pour tenir ce scrutin.
Merci beaucoup Boris Ravignon, merci beaucoup de nous avoir livré ce soir en exclusivité sur RTL certains des propos que vous a tenus le président Emmanuel Macron avant cette réunion qui est en cours avec les ministres. On en retient donc sa volonté d'entrouvrir la porte vers la mi-mai, voilà l'expression utilisée par par le président, avec dans un premier temps l'ouverture des restaurants et des bars pour les terrasses uniquement. Ça serait la première étape. Mais parallèlement également, l'ouverture sous condition d'un certain nombre de lieux de culture, musées, peut-être théâtre. On aura de toute façon peut-être des confirmations ce soir à l'issue de cette réunion qui est toujours en cours à l'Élysée avec Emmanuel Macron, Jean Castex et les ministres concernés. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Ensuite, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Ça va ? Tout va bien ?
Oui, je suis content de vous voir. Vous êtes notre joker de luxe quand Thomas n'est pas là. Quand Thomas fuit ses responsabilités plutôt.
Pourquoi donc ?
Car monsieur est absent pile le jour des audiences, comme de par hasard. Enfin, je me comprends.
Ouais, mais ça s'appelle l'humilité, ça, vous savez. Allez, courte pause, à tout de suite avec Philippe. Ce sera après le rappel de l'info d'Abandine Bego.
RTL Soir.
18h30.
Vincent Parisot, RTL Soir.
L'essentiel de l'info, Amandine Bégaud.
Et la France franchit ce soir la part symbolique des 100 000 morts. 100 000, 7 morts du Covid précisément. C'est ce qu'annonce Santé publique France. Des chiffres publiés alors qu'une réunion se tient en ce moment même à l'Élysée. Emmanuel Macron a convoqué une partie du gouvernement pour évoquer les futures réouvertures. Un plan qui pourrait être en 4 temps, dit ce soir sur RTL le maire de Charleville-Mézières. D'abord les terrasses et musées vers la mi-avril.
Non, mi-mai.
Mi-mai, pardon, excusez-moi, on est mi-avril. Mi-mai, vous faites bien de me reprendre. Il est l'un des élus qui a échangé avec le chef de l'État un peu plus tôt dans l'après-midi. Et puis l'autre info de la soirée, c'est ce rebondissement dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia. Samuel Goldschmidt, le procureur, confirme ce soir l'interpellation de 3 hommes.
3 hommes interpellés en Île-de-France. Interpellation toute récente, ils sont en garde à vue, ils sont actuellement auditionnés. Le procureur ne précise pas pour l'instant si ce sont formellement les ravisseurs de Mia, mais effectivement, 3 hommes s'étaient présentés avant-hier au domicile de la grand-mère de la petite fille. Un enlèvement particulièrement bien préparé, car ils avaient réussi à mettre en confiance la grand-mère en se présentant avec des papiers à en tête du ministère de la Justice, comme des éducateurs, pour enlever Mia sans violence. Et donc, 3 interpellations cet après-midi en Île-de-France, probablement, ou en tout cas on cherche à savoir si ce sont les ravisseurs de Mia. Pour l'instant, il n'y a pas de trace de la fillette ni de sa mère.
L'alerte enlèvement, on le rappelle, avait été déclenchée pendant quelques heures avant-hier. Merci à vous, Samuel Goldschmidt.
Merci à vous également, Amandine. Mais vous revenez après le journal de 19h, un peu avant 19h15, pour Il y a un an, il y a un siècle, et vous me ramènerez un Big Mac et une frite.
Ouais.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Peggy Broche, évidemment, est avec nous pour une météo qui sera moins ensoleillée demain, vous nous l'avez dit, Peggy.
Oui, c'est vrai, ça va se couvrir, Vincent. Alors, le matin, ce sera encore ensoleillé, il faudra en profiter, sauf sur l'extrême nord-est et l'extrême sud-est, où il y aura déjà des nuages et quelques averses. Et les nuages vont gagner les 3/4 du pays dans la journée. Seules les côtes de la Manche et la façade atlantique conserveront de belles éclaircies. Le ciel sera plus variable dans le sud-ouest, bien chargé partout ailleurs, avec un temps qui restera sec au nord, plus humide sur les reliefs du sud, avec une limite pluie-neige assez basse. Des 800 mètres et encore pas mal de gelées demain et des maximales qui seront toujours fraîches pour la saison de 10 à 14 au nord et jusqu'à 17 au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure. Et oui, vous l'avez entendu, il vous a prévenu, il est bel et bien là, Philippe Cavrivière. Ben oui. Philippe, on parle tout d'abord de cette info. Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français à la fin du mois pour annoncer ce qu'on a commencé à évoquer à l'instant, à savoir un nouveau calendrier de réouverture.
Oui, on savait que Macron était président, on a découvert qu'il était aussi épidémiologiste. Ben maintenant, il est en plus pompier, il nous vend des calendriers. Alors, on a tous hâte de découvrir le nouveau calendrier des dates qu'on va repousser.
Bien sûr, ouais.
Vous noterez, Vincent, que le calendrier de fermeture est plus fiable que le calendrier de réouverture. Quand ils disent on ferme, on ferme. Quand ils disent on rouvre, pas toujours. Vous vous rappelez de la réouverture des restos ? C'était le 20 janvier. Vous aviez pris quoi en entrée ?
Je me souviens plus trop.
On a pris Wallou.
Une soupe d'eau. Voilà. Tiens, à propos de dates qui bougent, les élections régionales, elles sont décalées d'une semaine, mais elles sont quand même maintenues au mois de juin.
Oui, Vincent. Si c'est pas une bonne nouvelle, ça. Alors, les restaurants sont fermés, les cinémas, les théâtres, les salles de concert, mais on pourra voter aux élections régionales le 20 et 27 juin.
Yeah,
oh, c'est bon. Parce que les élections régionales, c'est hyper important, vu qu'on ne peut plus quitter sa région. Les Français sont très attachés à leur région. attaché avec une chaîne de 10 km et un gros cadenas.
On parle santé, Philippe. Les effets secondaires de l'AstraZeneca et d'une Johnson & Johnson redonnent évidemment des ailes aux anti-vaccins. Comment on pourrait restaurer la confiance des Français?
Ça, c'est pas simple. Qui croire? Les scientifiques pro-vaccins ou les piliers de barre anti-vaccins? On fait confiance à Pasteur et Einstein ou à Didier Bernard du Balto? Les scientifiques, c'est des gars, ils ont envoyé le robot Persévérance sur Mars. Ouais. Didier et Bernard, ils ont envoyé leur Twingo dans un platane après un gros apéro. C'est pas facile de choisir entre les deux.
Bon, vous croyez résolument au progrès scientifique, vous, Philippe, c'est rassurant. Quand même, est-ce que vous pouvez un peu étayer vos propos?
Mais je le peux, Vincent. Ah. Je peux même vous prouver que la science et la médecine, c'est plutôt bien. Tiens, un chiffre pour vous éclairer. Oui. Sur la mortalité infantile. Mmh. Question, au XVIIIe siècle, combien d'enfants mourraient avant un an, en pourcentage, combien?
Moi, je sais pas, j'irais un bon 20%.
Un enfant sur 4, 25% avant un an. Ouais. Et personne ne s'en émouvait, c'était normal. Le père rentrait des champs, la mère disait « Tiens, j'ai fait de la soupe. Et au fait, il y a notre petit Benoît qui est mort. » Et le père répondait « Ah merde, bah du coup, t'as fait trop de soupe. »
Non,
ils s'en foutaient, c'est
ouais,
terrible.
C'était comme ça. Parlons de l'international quand même, Philippe, parce que les vols sont suspendus entre Rio et Paris, vous avez entendu, pour éviter la trop grande circulation du virus brésilien.
Vol suspendu en provenance du Brésil, rassurez-vous, je m'interdis la vanne, pas de vol du Brésil, le bois de Boulogne sera fermé.
Ah ben bah non.
J'ai assez d'emmerdes comme ça.
Ouais,
c'est Vincent Parisot, c'est pas Thomas Soto. Hein. Donc moi, je monte le niveau quand c'est vous. La décision est tombée. Mercredi, il paraît que certains avions ont dû faire demi-tour en plein vol.
Allons bon.
Ben, monsieur, mon nom est João Philippe Niu Caverinho. Je suis votre commandant de bord franco-brésilien sur ce Rio Paris, qui va donc devenir un Rio-Rio. Suite à une décision de João Castecinho, nous devons retourner au Brésil. Nous vous informons que vous pouvez ranger votre variant dans les coffres situés au-dessus de vous ou sous vos sièges PNC et PCR aux portes. Enclenchement de la marche arrière, on y retourne.
Oh là là, vous avez travaillé dans l'aérien, vous, c'est pas possible.
Hein,
j'adore João Castecinho, oui. Hein, c'est le nouveau. Toujours à propos du Covid, Gabriel Attal a annoncé qu'il y aurait un hommage aux victimes pour les 100 000 morts qu'on a dépassés aujourd'hui en France. Hein.
Terrible, quand tu meurs du Covid, tu as droit à un hommage, et quand tu meurs du cancer, tu as droit à un dommage. Alors on ne sait pas à quoi va ressembler cet hommage, peut-être Macron va faire comme Gérard Rolls pour le Téléthon. Bienvenue, c'est Gérard Rolls, toujours annoncé la voix qu'on imite quand on fait mal. On attend avec impatience le 100 000e. Ça y est, le compteur a bougé, On va bientôt atteindre les 100 000. Merci à vous pour ces 100 000 personnes. Vous êtes formidables. Gérard, c'est pas des sous, hein, c'est des morts. Ah merde. Ah oui, pardon, eh bien vive le sport. Et vive les morts sur France 2.
Et on termine, Philippe, avec la visite d'Emmanuel Macron. On en a parlé aussi dans les journaux, c'était ce matin, sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en compagnie d'Anne Hidalgo.
Oui, je trouve quand même dommage de ne pas avoir proposé à Jean-Pierre Raffarin l'arrière petit-fils du bossu de Notre-Dame.
Quelle joie
pour tous les Français de pouvoir retourner à la messe le dimanche. Autant les bars restos fermés, on s'en fout, mais ça, Notre-Dame ouvert, ça fait plaisir. Ça fait partie des grosses joies des Français, pouvoir retourner à Notre-Dame, surtout quand t'habites Bordeaux, Clermont-Ferrand. Alors, si t'es musulman de Sochaux ou juif de Biarritz, quel bonheur de pouvoir retourner à la messe à Paris. Et d'ailleurs, ce matin, il y a eu un mini-office pour célébrer la visite du président et d'Anne Hidalgo.
Ah oui ?
Je suis le père Philippe. Et nous allons célébrer ensemble la nouvelle Notre-Dame, entièrement refaite. Et ce n'est pas la première fois qu'une vieille parisienne sera toute refaite.
Ouais.
Nous vous accueillons en ce lieu saint, le petit Emmanuel, notre président, et sœur Anne, venus tous deux déposer un cierge en vue des élections à venir. Anne, ma sœur Anne,
ah oui, bien sûr.
Ne vois-tu rien venir ? Car la branlée approche. Quant à toi, Emmanuel, tu as promis à tes apôtres la réouverture des restaurants au 15 mai. Sais-tu que le mensonge est un péché ? J'aimerais avoir une pensée pour Saint Régis Ravanas et Saint Jacques Esnou, crucifiés par ce Judas de médiamétrie et ses audiences. Rendons gloire à Saint Thomas qui n'a pas vu les bonnes audiences, car Saint Thomas ne croit qu'est-ce qu'il voit ? Prions ensemble pour retrouver nos auditeurs égarés devant la télé. Louange à toi, Médiamétrie.
Bon, ils sont pas partis bien loin,
mais
juste
non,
devant
la télé.
La télé. Et ils vont revenir, mais évidemment.
Quand ils seront dans leur voiture.
Et on les attend à bras ouverts.
Ou alors bosser dans votre voiture, télétravailler dans la voiture, je ne sais pas.
Une bonne idée.
Je propose.
Merci, vous êtes encore fâché avec pas mal de monde ce soir, mais c'est votre métier.
J'ai l'habitude.
Voilà. Merci, et à très vite sur RTL. Dans un instant, un invité, je vous le disais, un invité et un témoignage absolument édifiant, celui de Michel Thierry à Tangana. Il a passé 17 ans dans une prison, mais ce n'était même pas une prison. On peut même pas parler de cellule. Un réduit dans les sous-sols du ministère de la Défense au Cameroun. Il a été complètement oublié par son pays, la France, parce que oui, il est français. Il publie L'otage judiciaire. Il veut être réhabilité, tout simplement. Et il est l'invité d'RTL Soir dans un instant.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, Michel Thierry à Tangana. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure d'une affaire édifiante. En effet, après un calvaire de 17 ans de détention arbitraire, totalement arbitraire, au Cameroun, il publie un livre, Otage judiciaire, coécrit avec Anna Véronique Elbaz. Le livre sort aujourd'hui. Je vais essayer... bonsoir tout d'abord.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Je vais essayer de résumer tout d'abord cette affaire. Vous êtes un ingénieur financier français, né au Cameroun, en France à Yaoundé, école et collège catholique jésuite. Vous êtes très croyant, et c'est important parce que je pense que ça vous a aidé à tenir.
Tout à fait.
On en parlera. Vous êtes venu en France en 1981 pour étudier, aussi vous faire soigner parce que vous aviez des problèmes de santé. En 88, c'est important, vous obtenez la nationalité française.
Oui, tout
vous
à fait.
Êtes français. Ça, c'est important pour
c'est
la suite.
C'est très important, c'est très important.
Et puis en 1993, donc là, vous êtes un ingénieur financier reconnu, vous partez au Cameroun en mission pour une grande entreprise française et votre vie bascule le 12 mai 97, les autorités camerounaises vous arrêtent. Vous êtes accusé d'avoir détourné des fonds. En fait, il faut expliquer qu'avant cela, un homme, Titus Edzoa, dont vous étiez proche dans le cadre de votre travail, dans
exactement.
Le cadre de cette mission, a affiché des ambitions présidentielles.
Seul.
Et c'est là, bien sûr, seul. Et c'est là que tout est parti de travers. Vous avez été arrêté en même temps que lui. On vous accusait de vouloir être son directeur de campagne.
Exactement.
Et on peut dire que vous avez été victime collatérale d'un règlement de compte politique.
C'est un bon résumé.
Bon, alors, c'est peut-être un bon résumé, mais la réalité, c'est, et ça on a quand même du mal à y croire, 17 ans de réclusion dans ce qui n'est même pas une cellule. C'était dans les sous-sols
la gendarmerie.
De la gendarmerie.
Exactement.
C'est-à-dire que vous étiez dans une zone de non-droit.
Totalement.
Retenu dans un cadre totalement illégal.
Illégal même sous le regard de la loi camerounaise qui interdit ce genre de centre de détention. C'est interdit par leur propre loi.
Alors, évidemment, c'est stupide de dire ça, mais 17 ans, c'est très très long. Pendant une grande partie de ces 17 années, vous n'avez pas eu, j'allais dire, d'aide de la France.
Oublié totalement par mon pays, qui n'a rien fait, qui m'a ignoré, qui m'a oublié.
Et comment vous l'expliquez ? Avec le recul, maintenant que vous êtes sorti depuis quelques années, est-ce que vous avez une explication ? C'est finalement à l'arrivée de François Hollande à l'Élysée que vous allez avoir un contact lorsque François Hollande est élu.
Mon Ogun est nommé ambassadeur au Cameroun. Il y a eu 4 ambassadeurs successifs qui ne sont pas occupés de moi.
Et pourtant, le cas, il était connu.
Tout le monde le connaissait, le cas. Puisque vous avez dit, j'étais à la tête d'un groupe d'entreprises très important. Et ces entreprises avaient pour but de construire des routes très importantes. Et il s'agit là des investissements français à l'extérieur, dont personne ne les ignorait. Et entre-temps, les Américains avaient fait des enquêtes et communiqué ces résultats à la France. Le CICR lui aussi, Amnesty International, Freedom House, dont tout était réuni pour que la France prenne en charge mon cas.
Et ça ne s'est pas fait. Évidemment, on peut pas effacer toutes ces années. Comment vous êtes ressorti après toutes ces années passées dans ces conditions ?
inhumaine, totalement inhumaine. Vous le racontez dans votre livre, on ne va pas rentrer dans les détails ce soir, mais je vous renvoie évidemment à ce livre pour le comprendre.
Ben, on a subi des dangers multiples et on est abîmé. Et la reconstruction est très très difficile, d'autant plus que la France ne reconnaît pas les travaux effectués par les Nations Unies, qui ont déclaré ma détention arbitraire du début jusqu'à la fin. Donc, physiquement, mentalement et matériellement, on est diminué. On n'est accompagné par personne.
Alors, effectivement, on va parler de l'aspect matériel, parce que, certes, vous avez été gracié, mais vous n'avez pas été
innocenté,
vous restez condamné.
Condamné.
Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indemnité. Mais ça,
d'indemnisation... Et je ne peux pas travailler non plus. Mon métier, c'est la finance. Vous savez, en finance, quiconque a conscience d'une quelconque inculpation ne peut pas travailler.
Revenons quand même sur ces années. Vous auriez pu quitter ce lieu. Vous auriez pu, avant la fin de votre détention, être libéré. Mais vous avez refusé de le faire. Vous avez refusé d'abord, dans un premier temps, de signer des papiers qui mettaient en danger Titus et
Tout à fait. Non. En fait, ce qui m'était proposé, pour être précis, c'est de participer à une aventure totalement inhumaine et cruelle, injuste et criminelle. Et moi, je ne voulais pas aligner ma conscience dans ce genre d'acte. Donc ce n'était pas une volonté propre ou bien un héroïsme débordé ou débordant. Je ne voulais pas participer à cette...
Vous préfériez, à ce moment-là, rester emprisonné dans les conditions...
En conscience, avec ma foi, mes convictions.
C'est important de le préciser.
C'est très important pour moi de rester droit dans cette attitude.
Vous racontez dans le livre une scène incroyable. À un moment, on vous embarque pour des examens médicaux.
Tout à fait.
Vous arrivez dans le cabinet du médecin. Le médecin dit confidentialité médicale. Évidemment, il demande à vos gardes de sortir de son cabinet. Il ferme la porte. Et là, de derrière le paravent, qui sert à se déshabiller, sort un agent américain qui s'était caché là et qui propose de vous exfiltrer.
Il m'a été présenté comme un agent américain. Mais comme j'avais en conscience que pendant la détention préventive... Il m'avait été proposé de signer des documents contre le professeur, dont j'étais un peu surpris de voir cette irruption. Et je me disais, si je signe cette descente aux enfers, peut-être c'est la fin de ma vie. Qui me dit que réellement c'est un Américain.
Ouais, vous pensez qu'il pouvait vous tuer.
Exactement. Donc c'est aussi, ça peut être une tentative, je dirais, qui sera habillé comme une tentative de fuite.
Et avec le recul, vous savez si c'était vraiment un agent américain qui allait vous sortir de là ?
Je sais que les Américains ont beaucoup travaillé sur mon cas, mais la mairie voulait un règlement légal.
Vous êtes libéré et gracié finalement après toutes ces années de calvaire, 17 ans. Une vie, quoi, hein, une vie.
Toute une vie.
On va parler de vos enfants, hein, par la suite, parce qu'effectivement, c'est un autre drame de votre vie. Vous êtes libéré et gracié en février 2014 par le président camerounais. Libéré, gracié, mais pas innocenté. Même votre retour en France, d'ailleurs, est chaotique. Enfin, j'ai lu ça, c'est incroyable. On vous demande de payer votre billet en
Malheureusement.
Retour.
Malheureusement.
Après avoir croupi dans ce cachot, vous arrivez à l'ambassade de France où vous passez deux jours. À peu
quatre
près.
Jours,
quatre jours entre le 20, oui. 23, 24, 25 oui. février, enfin oui. par là.
Quatre jours.
Et là, on vous dit, on va rentrer, mais vous devez payer votre billet.
L'ambassadeur, une dame, me dit de payer mon billet d'avion. Or,
mais
quelques
d'abord,
mois
vous
avant,
n'aviez pas un sou, évidemment.
Quelques jours avant, M. Moulin Fournier et sa famille avaient été libérés, et la France avait envoyé tous les ministres des Affaires étrangères les chercher. Le père Georges aussi avait été libéré quelques jours avant, avait bénéficié des mêmes services. Et moi, quand je sors de cette cellule, de cette situation, on me demande de payer mon billet d'avion.
Et ça, vous avez une explication ?
Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde cela, je n'ai jamais été traité comme une victime. J'étais traité comme un coupable. La présomption de culpabilité de la justice camerounaise a été acceptée par la France, actée par la France. Et la
Pourquoi
France n'a pas voulu...
Au nom de la non-ingérence ?
Oh, c'est terme technique, monsieur, terme technique, nous on est gérance. De toute façon, quand on veut sauver une vie, on la sauve. Et la mienne n'a pas voulu être sauvée. Et je pense qu'à mon avis aujourd'hui, avec un peu de recul, il y a là une discrimination, une volonté de ne pas me soutenir.
D'ailleurs, après votre libération, François Hollande vous a reçu. Oui. Est-ce qu'il vous a présenté des excuses pour le, au nom du peuple français?
Rencontre très importante, et il me reçoit sans médias. L'audience n'est pas inscrite dans son agenda officiellement. RTL qui me suivait à l'époque, votre radio qui voulait couvrir cette audience, n'a pas été informée. Et du coup, je me retrouve dans son bureau, très aimable président. Il me soutient, il me dit il y a eu des fautes graves, on va essayer de les corriger. Point.
Alors, on va faire court parce que malheureusement, on n'a pas énormément de temps. En 2012, alors vous avez eu un certain nombre d'avocats. Je précise qu'en 2012, Éric Dupond-Moretti a pris votre dossier en main. Évidemment, il l'a lâché lorsqu'il est devenu ministre. Mais il y a une question essentielle aujourd'hui qui est celle de l'indemnisation qui pourrait vous être fournie et donnée. On en est où?
Pour l'instant, rien de concret. Je travaille avec les parlementaires, avec le député Pierre-Alain Raffan, pour résoudre ce qu'on appelle mon accompagnement personnel, y compris pour les Français qui pourraient être détenus à l'étranger. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 9,5 millions de Français qui sont des binationaux, et il y a 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, chiffre officiel, dont à tout moment, un Français peut être arrêté. On a des exemples en ce moment. Donc aujourd'hui, on travaille, mais pour l'instant, sur ce plan, sur votre question, plus précisément, il ne se passe rien.
Vous demandez quelque chose à Emmanuel Macron, qu'il regarde votre dossier?
Mais bien sûr, qu'il prenne la parole. Il a commencé avec les députés à faire des signes, mais pour le moment, ces signes ne sont pas mis en application. Aucun.
Vous en voulez à la France? Votre pays, je le rappelle.
Je n'en veux à personne. Ce que je veux, c'est être réhabilité.
Et pour tout comprendre, évidemment, on vous soutient dans votre combat totalement légitime. RTL était à vos côtés dès le début.
Pendant ma détention déjà, et après ma libération, RTL était là.
Michel Thierry à Tangana, otage judiciaire, 17 ans de prison pour rien. C'est au Cherche Midi. Vous allez le lire, vous allez tomber de l'armoire. Merci beaucoup.
Je vous remercie infiniment.
On marque une courte pause. Et dans un instant, eh bien, Julia Molcou va essayer de réchauffer tout le monde avec sa culture de l'actu.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
C'est la culture de l'actu avec Julia Molcou, comme chaque soir. Bonsoir Julia.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Alors on aurait dit, le gel a fait de gros dégâts en France. Le gel des cultures va nous priver sûrement de certains fruits cet été. Alors hommage aux fruits dans la culture de l'actu.
Salade de fruits, joli, joli, joli.
Beaucoup de fruits dans la salade de Bourville, mais bien peu de fruits vermeils dans le jardin de Baudelaire après le passage du tonnerre et de la pluie. Les fruits ont un goût amer pour Tom Joad et sa famille dans Les raisins de la colère. Enfin, chez Daniel Pénac, les fruits de la passion sont une enquête policière plus qu'un dessert.
Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon.
Oh non.
Puis c'est avec émotion.
Ah oui.
Que je touche aux fruits de la passion.
Mais quoi?
Ce sont de drôles de fruits.
Oui, et puis tout de suite, on se sent plus léger.
Ah oui, ça c'est sûr.
Alors les fruits sont aussi des modèles pour les peintres. Alors c'est vrai que là, la marche est haute, entre Francky Vincent et le Caravage. Parce que le Caravage en fait une nature morte. Archimboldo fait d'un panier de fruits une tête renversée, quand Paul Cézanne, 250 ans plus tard, donne naissance à la corbeille de pommes.
Je prends des pommes, des poires, et des scooby-dooby-doo. Wow.
Les fruits, c'est aussi une histoire de cinéma. Un peu ratée, avec Bananas, le troisième long-métrage de Woody Allen. Un peu violente, avec Orange Mécanique. Ou encore pleine d'introspection dans Les fraises sauvages de Bergman.
Oh, les fraises et les framboises, les vins nous avons bu, et les
pères. Ah, j'adore vos illustrations. On passe donc de Bergman au Charlot.
Bah oui, c'est ça la culture de l'actu. C'est fait sérieusement, mais ça se prend pas au sérieux. Et puis les fruits, quand ils ne sont ni sur nos étals, ni dans nos films ou dans nos livres, on les retrouve dans nos expressions. On peut avoir la pêche ou être aux fraises. On peut se fendre la poire ou avoir le melon. On doit garder la banane, même si c'est pour des queues de cerises. L'essentiel étant de ne pas être la reine des pommes. Et c'était quoi déjà l'expression de Colette Renard? Ça voulait dire quoi son truc sur l'abricot?
Je
me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot.
Je ne peux pas traduire.
Non, non, on ne va pas traduire, on va revenir beaucoup plus sagement. Saviez-vous, cher Vincent, cher Peggy, que Le temps des cerises, interprété par Yves Montand ou Cora Vauquer, avait été écrit en 1866?
Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle.
Ah, c'est alors, pas Francky Vincent. Hein.
Non, et puis alors, dans un autre registre, si Philippe Risoli a écrit « Elles sont cuitasses, les bananas », après avoir été remercié par TF1 et n'a reçu pour cette chanson aucun prix, on le regrette, Philippe Catherine, quant à lui, a reçu la victoire de la musique du meilleur vidéoclip en 2011 pour « La banane ».
Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane,
enfin. Et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Peggy, oui. Petit rappel à tous ceux qui pensent encore que les hommes préfèrent les blondes.
C'est la pression qui confonde et la joconde à moi
qu'on la tombe.
C'est quand même bien une brune.
Et alors, elle compte pas pour...
Les brunes comptent pas pour des prunes.
Allez, c'est la culture de l'actu, chaque soir sur RTL. Un vrai plateau de fruits, ce soir.
Mais tant mieux si ça vous a plu. C'était variant.
Merci.